tout de suite le journal avec Valentine Letesse. Bonjour Valentine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. C'est une nouvelle attaque au nom de l'Amérique d'abord. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump a refusé de certifier l'accord sur le nucléaire iranien. Alors oui, l'Amérique d'abord, mais l'Amérique de plus en plus seule au vu des réactions internationales, nous détaillera Franck Madvon.
Les thèmes de l'extrême droite colorent les élections législatives autrichiennes. Ce week-end, le Parlement sera renouvelé et le favori pour devenir le nouveau chancelier envisage de gouverner avec le leader du FPÖ. Portrait de Heinz Christian Statsche à suivre.
Derrière la victoire d'Audrey Azoulay à la direction générale de l'UNESCO, une fronde anti-Qatar en coulisses. L'ancienne ministre prend la tête d'une organisation internationale en proie aux guerres intestines.
Est-ce qu'on assistera à un tournant demain soir en direct à la télévision? Premier entretien d'Emmanuel Macron sur TF1 et LCI. On le sait, le président de la République et la presse, c'est une histoire compliquée. Décryptage de Yaël Gouze.
Il est temps que l'État tranche sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Voilà le cri et le sens de la manifestation organisée ce matin par les soutiens au projet. Puisque rien ne bouge malgré les décisions de justice, eux ont décidé de se mobiliser, nous expliquera le président de l'association des Ailes pour l'Ouest. Et dans la deuxième heure des matins du samedi, votre invité ce matin, Caroline.
Eh bien, vous le savez, tout le week-end, vous ne le savez peut-être pas encore, mais tout le week-end, France Culture célèbre à sa manière, c'est-à-dire unique, le 100e anniversaire de la révolution d'octobre en Russie. Pour ouvrir le bal, nous recevons l'historien Pascal Horry.
Il ne certifiera donc pas l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. Donald Trump refuse en clair de confirmer que l'Iran tient ses engagements sur ce dossier. Il l'a annoncé hier dans un discours offensif. Le Congrès américain a désormais 60 jours pour imposer de nouvelles sanctions à l'Iran, ce qui mettrait fin à cet accord, affaibli, remis en question mais pas annulé. En attendant, c'est une période de grande incertitude qui préoccupe de nombreuses chancelleries du monde qui s'ouvre Franck Madvon.
Il n'y a guère qu'Israël et l'Arabie Saoudite, deux ennemis de l'Iran, pour applaudir le discours virulent de Donald Trump. Le président américain compte bien peu de soutien. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, les pays européens qui ont négocié l'accord sur le nucléaire iranien, expriment à nouveau leur attachement au texte. L'Élysée annonce même la visite prochaine d'Emmanuel Macron en Iran. Pour ces États, oui, le rôle de l'Iran au Moyen-Orient est inquiétant, parlons-en, mais c'est autre chose, l'Iran respecte l'accord. La Chine et la Russie, autres pays signataires, veulent aussi préserver l'accord. Moscou déplore la rhétorique agressive de Trump. Le président iranien Rouhani, lui, dénonce des accusations sans fondement et estime que l'accord reste intact. En fait, ces pays comptent sur le Congrès américain pour ne pas imposer de nouvelles sanctions à l'Iran et ainsi sauver l'accord. Cela dit, le discours de Donald Trump donne des munitions à ceux qui demandent plus de fermeté vis-à-vis de Téhéran, au risque de renforcer les durs du régime iranien et d'ouvrir de nouvelles crises.
Et l'Iran fait l'objet du régime de vérification nucléaire le plus solide au monde, a aussitôt rétorqué le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique hier. Les spécialistes de la région craignent une déstabilisation encore plus grave du Proche-Orient. Michel Duclos, conseiller spécial de l'Institut Montaigne.
On peut dire que la première conséquence, ça va être d'élever la tension dans la région. Les Iraniens, ou ce qu'on appelle les durs du régime, vont être incités à utiliser les moyens qu'ils ont à leur disposition, c'est-à-dire les milices dans la région, par exemple, ou le programme balistique, pour marquer leur mécontentement et leur opposition à la nouvelle politique de M. Trump. Et par ailleurs, les adversaires du régime dans la région vont de leur côté se sentir renforcés et aussi se trouver dans une humeur plus belliqueuse. Donc dans des régions comme l'Irak, la Syrie, le Liban, on va assister à une aggravation des tensions.
Michel Duclos, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, joint par Claude Guibal. Ce matin, Laïkan, lauréat du prix Nobel de la paix, critique la décision de Donald Trump. Pour la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, la diplomatie fonctionne. Et ce nouveau discours du président américain est, je cite, une incitation à la prolifération nucléaire qui va rendre difficile la conclusion d'autres accords pour limiter cette menace.
Peut-être le nouvel avènement de l'extrême droite en Autriche.
En tout cas, l'immigration est au cœur des débats. En ce week-end d'élection pour renouveler le Parlement, un scrutin anticipé avec en jeu la désignation d'un nouveau chancelier. Pour l'instant, les sondages donnent le candidat de la droite vainqueur, un jeune requin de 31 ans, actuellement ministre des Affaires étrangères. En cas de victoire, il envisage de gouverner avec l'extrême droite du Parti de la Liberté. Son leader, Heinz Christian Strache, tenait meeting hier à Vienne. Reportage sur place de Nathanaël Charbonnier.
C'est connu, la valse est une danse qui peut facilement faire tourner la tête. Et celle qui retentit dans le quartier de Favoriten, dans le 10e arrondissement de Vienne, n'est pas là pour nous rappeler Sissi impératrice, mais bien pour accueillir celui qui dimanche soir pourrait devenir l'homme incontournable de l'Autriche, le faiseur de roi Hans Christian Strache, leader du FPO, parti d'extrême droite que ses supporters appellent plus simplement Hans C. Hansé et souriant, il porte un jean et une veste marron. Il saisit le pupitre et se lance dans un long discours sans notes. Il s'en prend au chancelier sortant, à la coalition droite-gauche qui gère le pays depuis 10 ans. Et il pointe du doigt surtout sa cible préférée, les réfugiés de confession musulmane.
Est-ce qu'on aura encore le droit de manger du cochon? Est-ce que si on mange du cochon, ça va être vécu comme une insulte pour les musulmans? Est-ce qu'on aura bientôt, on n'aura plus le droit de manger du cochon?
Et le leader de l'extrême droite continue sur le registre de l'étranger qui vient manger le pain des Autrichiens. À l'arrivée, le message est reçu 5 sur 5 par la foule et par ce jeune garçon qui a bien compris la leçon.
Flüchtlingskrise.
La crise des réfugiés, c'est vraiment ce qui est important.
Il va voter pour lui.
Sie werden für ihn wählen.
Ja. Et ce oui est crédité de 27% d'intention de vote dimanche.
Nathanaël Charbonnier. Et dans ce contexte, une autre question plus globale sur nos droits se pose. La libre circulation, l'un des acquis les plus concrets de la construction européenne, est-elle menacée? Plusieurs États membres le redoutent et s'en inquiètent depuis la réunion des ministres de l'Intérieur des 28 à Luxembourg. En cause, la décision de la France, de l'Allemagne, du Danemark, de la Suède et de l'Autriche de prolonger les contrôles à leurs frontières. Contrôles rétablis pour menaces terroristes ou en raison de l'afflux de migrants, Marie-Pierre Véraud.
Si l'espace Schengen meurt, l'Europe mourra. La mise en garde du commissaire européen en charge des affaires intérieures n'y aura rien fait. La France, comme l'Allemagne, entendent rester maîtresse souveraine de leurs frontières et jugent les règles de Schengen obsolètes devant la permanence de la menace terroriste. Elles ont d'ores et déjà annoncé le prolongement pour 6 mois des contrôles en vigueur depuis 2015, arguant de nouvelles menaces terroristes. Ce sera jusqu'au 30 avril prochain pour Paris. Paris, Berlin, Vienne, mais aussi le Danemark et la Suède qui ont dû faire face aux inquiétudes, voire aux critiques d'autres États membres. La Slovaquie s'est ainsi dite très triste, appelant à revenir à la réalité, à protéger Schengen depuis les frontières extérieures et non aux frontières intérieures. Pologne, Hongrie et Slovénie se seraient aussi émus des atteintes à la libre circulation, craignant en outre des conséquences économiques. Les règles de Schengen vont être revues, la Commission l'a acceptée, elle propose de porter de 6 mois à 1 an les périodes maximales de rétablissement des contrôles en cas de menace sur la sécurité d'un pays, voire de les prolonger de 2 ans supplémentaires si les autres États membres en sont d'accord. Une évaluation de la menace serait également demandée à l'agence Frontex et à Europol, l'office policier européen. Mais Paris comme Berlin veulent des périodes plus longues et veulent surtout s'affranchir du feu vert des autres pays européens, tout en contestant le rôle qui serait dévolu à Frontex et à Europol. La refonte de Schengen risque donc fort de prendre du temps et les dérogations à la libre circulation devraient continuer à fleurir.
Marie-Pierre Véraud. D'ailleurs, après un Conseil européen de l'environnement à Luxembourg, les 28 pays de l'UE se sont accordés sur une nouvelle répartition des efforts en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un nouvel accord salué par le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Mon extradition serait illégale, se défend César Battisti. Elle l'exposerait à la torture ou à un assassinat, affirme l'ancien militant d'extrême gauche italien. Cette extradition demandée par Rome à Brasilia dépend désormais d'une décision de la Cour suprême brésilienne sur une requête des avocats de l'Italien pour l'empêcher.
Nous en parlions il y a quelques minutes dans la fabrique médiatique, Valentine Letès, ici même, l'affaire Harvey Weinstein. Cette question, sera-t-il expulsé, privé de statuette?
L'Académie des Oscars se réunit aujourd'hui pour décider d'éventuelles sanctions contre Harvey Weinstein, le célèbre producteur de cinéma accusé d'harcèlement sexuel, d'agression ou de viol par une trentaine de femmes. Les langues se délient les unes après les autres depuis l'enquête publiée la semaine dernière dans le New Yorker et le New York Times. Par la voix de sa porte-parole, Harvey Weinstein affirme lui que les relations sexuelles publiquement révélées étaient consenties. Je suis innocent de la moindre infraction et lavé de tout soupçon, déclaration de Richard Ferrand après le classement sans suite de l'affaire des mutuelles de Bretagne. Éphémère ministre de la Cohésion des Territoires était soupçonné d'avoir favorisé sa compagne à l'époque où il était directeur général de cette compagnie. Selon le procureur de Brest, certaines infractions ne sont pas constituées faute de préjudice avéré et un éventuel délit de prise d'illégal d'intérêt est prescrit. Il est 8h10 sur France Culture. Restaurer la crédibilité de l'organisation et la confiance des États membres. Voilà les combats qu'Audrey Azoulay, la nouvelle directrice générale de l'UNESCO, entend mener en priorité. L'ancienne ministre de la Culture a été élue hier à la tête d'une institution onusienne en proie aux luttes intestines et affaiblie au lendemain du départ surprise des États-Unis et d'Israël. D'ailleurs, sa victoire, Audrey Azoulay, la doit sans doute en partie à un sentiment anti-Qatar développé dans les coulisses de l'élection. La campagne dispendieuse de Hamad Al-Kouhari, le candidat de l'émirat, a certainement agacé le landerneau diplomatique. C'est en tout cas l'explication de Mohamed Al-Kaï, membre de l'équipe de soutien à la candidate égyptienne.
L'élection d'Audrey Azoulay, j'en suis ravi. Je soutenais évidemment au tour final sa candidature contre la candidature qatari, qui sont, me semble-t-il, les Qataris éloignés un peu encore du progrès scientifique et de la culture ou encore du patrimoine, et que le règne d'échiquier n'est pas forcément celui en lien avec cette organisation, peut-être d'autres, peut-être comme la FIFA, mais peut-être pas l'UNESCO. Donc je suis ravi qu'Audrey Azoulay soit élue. Voilà l'image de l'UNESCO, c'est celle d'une organisation qui travaille sur la protection du patrimoine, sur la culture, sur la science, sur l'éducation, sur la liberté des journalistes, sur l'information. Donc autant de thèmes qui, je pense, sous la houlette d'Audrey Azoulay, seront mis en avant pour que le monde entier arrive un peu à harmoniser ces critères concernant toutes ces thématiques.
Un propos recueilli par Christian Chesneau. L'actuelle ministre de la Culture, Françoise Nyssen, félicite-t-elle chaleureusement la candidate de la France. L'UNESCO, sous la direction générale d'Audrey Azoulay, s'attachera à faire de l'éducation un ferment de développement et d'égalité, ajoute la ministre.
Il donnera sa première grande interview télévisée en tant que président demain soir.
Emmanuel Macron sera en direct à 20h05 sur TF1 et sur LCI. Un entretien d'une heure où le président de la République aura notamment l'occasion de défendre sa politique budgétaire. Après sa chute dans les sondages cet été, Emmanuel Macron a décidé de s'exprimer davantage dans la presse depuis la rentrée. Figaro, Ouest France, Le Point et CNN. Mais ses interventions se comptent tout de même sur les doigts d'une main, Yael Gouze.
Emmanuel Macron et la presse, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Il assume la rupture avec les années Hollande. Trop de copinage et de coquinage, confidence du président à l'écrivain Philippe Besson. La rupture, la vraie, c'était le 14 juillet. L'Élysée supprime l'interview présidentielle, un rituel sous la Ve République. Parole rare avec les journalistes, mais omniprésente sur d'autres canaux. Un Jupiter 3.0, tweet, Facebook Live, Instagram. Emmanuel Macron, matin, midi et soir, hyper contrôle et méga diffusion. Alors pourquoi TF1 un dimanche soir, 20h devant trois journalistes? Moment charnière, répond l'Élysée. 5 mois d'exercice du pouvoir. Une première étape a été franchie, dit l'entourage. Ordonnance, budget, réforme du logement sont sur les rails. Et une deuxième phase commence, sociale, réforme de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. Promis juré, ce choix de s'exprimer n'a rien à voir avec le sparadrap du président des riches. Il ne parle que quand il a quelque chose à dire, c'est tout, dit un proche. Une heure pour résumer sa pensée complexe, ça fait sourire l'un de ses conseillers. Il va balayer tous les sujets, ça va sûrement déborder.
Le décryptage de Yael Gouze. Pour certains, c'est le symbole de l'impuissance publique. Le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes rassemble ses soutiens ce matin. 500 à 1 millier de personnes attendues pour manifester devant l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique, puisque malgré un référendum et plusieurs décisions de justice, les zadistes, plusieurs centaines, sont toujours présents sur le site. Alors les trois médiateurs envoyés par l'État ont parlé au soutien de Notre-Dame-des-Landes sans succès. La manifestation aura bien lieu. Pourquoi ? Réponse d'Alain Mustière, président de l'association des Ailes pour l'Ouest.
La médiation avec l'État n'empêche pas de dire qu'on a pris un retard considérable et que les habitants de Saint-Aignan-de-Grandlieu et du sud de Nantes en ont marre et veulent que cet aéroport déménage. C'est aussi une façon de se faire entendre. Et puis, la médiation n'empêche pas les décisions qui ont été prises sur le plan de la démocratie, sur le plan du droit et sur le plan de l'Europe. Et donc il faut réaffirmer fort que on repart pas d'un plan à zéro. Il y a le dossier à avancer. Et donc la manifestation a pour lieu de montrer que nous restons extrêmement mobilisés. Nous exigeons que cet aéroport se fasse conformément à la démocratie, au droit.
La manifestation débutera dans 2 heures. Le temps de ce samedi, il fait frais ce matin, des Pays de Loire aux frontières du Nord. Les brouillards sont fréquents, mais se dissipent dans la matinée. Un beau soleil et de la douceur cet après-midi. Côté température, nous sommes largement au-dessus des moyennes saisonnières. 9 à 15 degrés en moyenne ce matin, 20 à 27 degrés cet après-midi.